Bonjour et bienvenue dans cette émission du 17 février 2024 sur cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Je vais aborder aujourd'hui la question de l'incarcération et des menaces pesant sur Julian Assange. Cet homme est persécuté depuis plus de 8 ans, enfermé dans une prison ignoble à Londres, la prison de Belmarsh, carrément remisée dans une oubliette pour avoir dénoncé et fait connaître des crimes de guerre commis par les forces américaines et occidentales, notamment en Irak, mais également sur plein d'autres fronts. Et ce journaliste qui a fait honnêtement son travail, courageusement son travail, se retrouve depuis persécuté, mais non seulement persécuté, torturé, selon les termes mêmes du rapporteur des Nations Unies à la torture qui lui a rendu visite à réitérées reprises. Et oui, il a dit, Julian Assange est actuellement torturé par ses geôliers, qui le gardent dans un quartier de haute sécurité, dans des conditions innommables. Il est à l'isolement plus de 23 heures par jour, jour après jour, depuis 5 ans, dans une espèce de cagibi obscur, ignoble, d'une manière qui est choquante au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Et alors qu'évidemment qu'il ne présente aucun risque d'évasion, qui va aller libérer Julian Assange en prenant la prison Belmarsh d'assaut ? Et on comprend bien que le but de cette torture ostentatoire montrée au monde entier, c'est de dissuader les journalistes des pays occidentaux de faire leur travail. Et on observe que toute cette presse qui me dégoûte de plus en plus, alors oui, de temps en temps, prend parce qu'il faut bien position pour la libération de Julian Assange, mais surtout désormais marche au pas de la dérive totalitaire qui les instrumentalise. Si la presse avait un minimum de décence, et notamment celle de faire son travail, jamais la catastrophe de la crise Covid ne serait advenue. Jamais nous ne partirions en guerre de manière répétée contre des populations qui n'ont rien demandé. Jamais nous ne serions engagés dans cette dérive absolument terrible, dans ce déferlement totalitaire qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et je dis aux journalistes, comment n'avez-vous pas honte ? Comment n'avez-vous pas honte de participer à un système aussi déshumanisé, aussi toxique, aussi pervers, aussi démoniaque ? Et Julian Assange, bien sûr, et là, pour montrer à cette troupe des journalistes ce qu'il en coûte de dire la vérité sur les choses qui comptent. Vous savez, dans l'Antiquité, les Romains avaient l'habitude de placer les crucifiés qui étaient à l'agonie. Les coups de fouet qu'ils recevaient avant s'opéraient avec des fouets lestés de billes de plomb pour lacérer les chairs. Et ces malheureux, à moitié vidés de leur sang, étaient suspendus aux portes des villes pour bien montrer à la population ce qu'il en coûtait de s'opposer à l'occupant romain. Eh bien, c'est exactement ce que nos pays font avec Julian Assange. Bien sûr, en France, en Suisse et en Belgique, nous pouvons nous dédouaner en disant « nous n'y sommes pour rien, ce sont les Anglais, ce sont les Américains ». Mais soyons honnêtes, deux minutes, tous nos pays participent à ce système ignoble, à la dérive ignoble dans laquelle nous sommes et à la torture ignoble de Julian Assange, lequel, bien sûr, avait eu le malheur de faire connaître cette vérité que sans la propagande des médias, aucune des guerres que l'Occident a livrées à travers le monde au prix de millions et de millions de morts et dans des crimes de guerre sans fin n'aurait pu avoir lieu parce que les opinions publiques n'auraient pas accepté. Et tout le travail des médias aujourd'hui est d'être des vendeurs de morts et des vendeurs de guerre. Et voilà, Julian Assange en paye le prix de l'avoir dit, comme Edward Snowden, l'ancien analyste de la CIA, mais qui lui a pu se réfugier en Russie. Et oui, aujourd'hui, si vous avez le courage de dire des choses qui déplaisent à l'impérialisme américain, vous devez vous réfugier dans des pays comme la Russie, qui bien sûr n'est pas une démocratie, c'est une autocratie. Mais en attendant, des gens comme Edward Snowden peuvent éviter le sort réservé à Julian Assange en se réfugiant à Russie. En Russie, ce qui est quand même le monde à l'envers, on en conviendra. Edward Snowden, lui, ayant dénoncé le système de surveillance permanent, d'espionnage de tout un chacun, auquel nul d'entre nous n'échappe, a souvent professé cette phrase « Vous n'imaginez pas à quel point il est difficile de faire comprendre la vérité à des gens qui n'ont pas conscience de vivre dans le mensonge. » Et là, on retombe sur le rôle ignoble de la presse, dont la fonction est de s'assurer que nos populations vivent dans le mensonge jour après jour. Alors le dernier recours de Julian Assange va être jugé les 20 et 21 février à Londres. Son épouse admirable, Stella Assange, ils ont deux enfants en bas âge comme résultat de leur union, remue ciel et terre pour rallier un très large soutien à Julian Assange. Mais hélas, 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 nous savons à qui nous avons affaire. Des gens sans foi ni loi, des gens sans pitié, d'une cruauté et d'une perversité sans fin. Évidemment que nous sommes nombreux à redouter le pire, c'est-à-dire une extradition vers un pays qui s'apprête à le condamner au mieux à 180 ans de prison et qui pourrait même envisager la peine de mort à son égard. C'est pourquoi je vous en conjure, mobilisons-nous tous, faisons circuler le hashtag, comme on dit, Julian Assange, postons des choses pour soutenir et défendre Julian Assange, car il est le martyr, il est le crucifié de nos libertés. Et d'ailleurs, si tant de personnes ont mis du temps à comprendre la réalité du déferlement totalitaire dans lequel nous sommes, il suffisait de regarder dans sa direction pour en prendre conscience. Différentes personnes lui ont rendu visite à Londres, dont Cédric Villani, mathématicien français, qui s'est montré touché au sortir de son entrevue. L'était-il vraiment? Je n'ai pas lieu de douter de sa sincérité et qui serais-je pour en juger? Ce que je sais en revanche, c'est que Cédric Villani, à la tête de la commission d'enquête parlementaire sur les effets indésirables des injections géniques, eh bien, a protégé, a couvert, a occulté tout un ensemble de choses dont il était essentiel que la population soit informée. Au service de qui? Eh bien, de ceux qui ont emprisonné et torturé Julian Assange. Dès lors que l'on sait aujourd'hui qu'il y a cette collusion monstrueuse entre les appareils d'État, que d'aucuns appellent l'État profond, et les grandes entreprises transnationales qui aujourd'hui ont adopté des fonctionnements mafieux sur le modèle du crime organisé. Et donc oui, soutenons tous Julian Assange, car il est notre conscience, mais il est également l'image du martyr qui attend tous ceux qui n'ont pas encore compris à quoi nous avons affaire et que ceux qui sont au pouvoir préparent à notre intention. Et évidemment que j'espère et j'invite tout le monde, moi le premier, à redoubler d'efforts pour mettre en échec cette terrible intention. Je vais interrompre mes émissions pour 2 semaines pour écrire mon prochain livre, La fabrication du désastre, dans l'autopsie du désastre. Mensonges et corruption au cours du Covid, j'ai réalisé l'inventaire complet de toutes les différentes facettes de cette gestion absolument catastrophique, mais délibérément catastrophique. Et dans le 2e tome, dans la fabrication du désastre, je vais m'intéresser, une fois qu'on a posé ces questions, aux questions sur lesquelles cela débouche, c'est-à-dire qui, quoi, comment et pourquoi. Qui a organisé la mise en échec de tous les plans pandémie pour les remplacer par des mesures dommageables, destructrices et anti-scientifiques, à dessein? Quel était le but de l'opération? Quels ont été les moyens employés? Et je vais retracer tout l'historique de cette substitution de réponses toxiques et absurdes à la bonne science et aux bonnes connaissances en épidémiologie infectieuse. Et puis, pour déboucher sur le mobile, quelle est l'intention de ceux qui ont organisé tout ça? Et comme toujours, en étant extrêmement vigilant quant à nommer ce qui est quasiment certain, parce que une somme d'éléments probants converge dans cette direction et donc l'hypothèse est très forte aujourd'hui, ce qui est possible sans qu'on en soit absolument sûr, mais qui est vraisemblable, ce qui est plus spéculatif, mais qui n'est pas exclu, et qui, le cas échéant, si c'est bien de ça qu'il s'agit, serait hautement problématique, et ce pourquoi nous n'avons pas de données probantes suffisantes à l'heure actuelle pour retenir, de manière prioritaire, cette hypothèse. Et donc, je vais finaliser la rédaction de cet ouvrage qui sera disponible début mai aux éditions Marco Pieter. Et donc, je vous prie de m'excuser mon absence. Je vais être en retraite d'écriture. Il y a à nouveau une masse de ressources documentaires à mettre à contribution pour essayer de proposer un éclairage qui soit le plus honnête, le plus véridique, c'est-à-dire qui cherche en permanence à coller à la vérité telle qu'on peut la comprendre. Il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a des réalités. et bien sûr dans un effort de compréhension ouverte et intelligente qui respecte aussi l'étendue de nos incertitudes et de notre ignorance. À bientôt, on se retrouve début mars. Et merci de votre soutien, merci de l'attention et de l'écoute que vous voulez bien accorder à mes différentes vidéos. Il s'agit de continuer à faire croître la conscience, car bien sûr, la question de l'opposition politique, comment concrètement mettre en échec les crapules qui nous gouvernent, se pose. Mais c'est essentiellement une question de conscience et nous avons donc à continuer de diffuser des contenus, des éléments de conscience, de rayonner de la conscience dans l'espace public, car c'est ainsi qu'un basculement pourra avoir lieu. Merci.